Europe 1,
11h30,
le meilleur de bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfaits pour vous, votre magazine Feel Good, bien-être. Et on va attaquer à présent notre séquence très conviviale de l'émission, les meilleurs moments de la partie tendance.
C'est ça Julia, il y aura d'abord un bon plat de boulettes avec la chronique gastronomie du chef Abdel Alaoui. Et oui, hein, les boulettes c'est tendance. D'ailleurs la preuve, les enfants les adorent et nous aussi, on va se régaler, vous verrez. Ensuite, comme on aura probablement pris quelques kilos avec Abdel, il faudra un peu rentrer le ventre. Enfin, on va aller directement au bloc opératoire avec le docteur Aurène Marco qui nous dira tout sur les dernières techniques d'abdominoplastie. En gros, des boulettes, mais un ventre plat. Dans Bienfait pour vous, tout est possible.
Ensuite, Maud Ravier, notre spécialiste beauté, nous expliquera tout ce que l'on peut faire aujourd'hui pour sublimer nos lèvres du côté du maquillage permanent. Mais vraiment, version 2021, je vous rassure, que du beau, du presque naturel, c'est promis. Et pour terminer, toujours dans la beauté, notre coach sportif, Jean-Marc Delorme, nous a promis lui aussi une chronique très utile. Il nous donnera les exercices de sport qu'on peut faire pour, je le cite, « avoir un boule qui chamboule », rien que ça.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Allez, on démarre donc ce moment particulièrement convivial, savoureux de notre émission, la partie tendance de ce magazine. Et donc, c'est vous qui allez nous régaler en premier ce midi, Abdel Alaoui, parce que les boulettes, c'est trop chouette. Vous avez vu, j'ai fait une rime et tout.
C'est ouais, les boulettes, c'est trop chouette. Et comme disait ma mère, tout ce qui est à la mode se démode, mais tout ce qui est démodé revient à la mode.
Elle avait raison. Comme sa mère.
Elle m'a tellement dit de trucs, je vais raconter ça toute l'année d'ailleurs. J'adore. Elle avait raison, comme toujours, ça s'appelle du coup le vintage.
Hein. Ah bah oui.
Et quoi de plus vintage que.
Il y a comme un goût de flec chez les mots.
Génération non, ouais, c'est trop bien.
Ça fait toujours du bien.
Ça fait du bien. Ah ouais, les boulettes, alors on peut tout mettre dans sa boulette. Hein. Qu'elle soit grosse, petite, au bœuf, à l'agneau, au poulet, au tofu, complètement végétarienne, avec des épices mijotées, grillées, ou juste à la vapeur, comme ça c'est un peu plus léger quand même.
Ah génial, ouais. Celle-là est valide, hein, le docteur Aurène Marco.
Ouais, mais c'est validé ça.
Moi, à la vapeur, ouais. Ouais, bien sûr.
Pas mal, avec du cabillaud. Donc vraiment, on peut la rendre légère cette boulette. Bref, la boulette aujourd'hui, ça va être ta fête. Alors elle est hyper tendance. Elle revient à la mode, on en trouve partout, hein. Même dans certains bistrots. Est-ce que vous connaissez l'ami Jean, par exemple?
Je sais pas si
vous
connaissez. C'est un resto,
petit bistrot.
Ouais, très sympa.
Alors, au Stéphane Gégaud, donc le chef revisite la boulette.
C'est à Paris, hein.
Carotte de son enfance en mode boulette surprise. Alors, il met un morceau de carotte dans cette viande hachée, dans le bœuf. Il referme tout ça, il la fait passer dans la chapelure. Paf! Et il frit, et ça colore, et ça devient. Il y a un mélange de croustillant et de fondant.
Et d'arnaque pour les enfants. En plus, ils mangent de la carotte.
Ah ouais.
Moi, j'adore, je reste sur mon arnaque quand même.
On peut mettre vraiment n'importe quel légume dans cette boulette surprise. D'ailleurs, la plupart des chefs, ils reprennent juste la recette de leur mère, de leur grand-père, de leur grand-mère. C'est un peu la boulette de Proust. C'est un peu ça. Hein. Mais moi, je vais vous parler de cette boulette que ma mère nous préparait tous les deux jours, tellement c'était bon, en plus des pois chiches, évidemment. Alors, elle est préparée avec un peu de bœuf, de l'agneau, du persil, de la coriandre, beaucoup d'ail, un œuf pour lier tout ça, et elle boulait ça avec ses petites mains. Elle avait une odeur de vacances, de soleil, d'épices, de bonheur. Elle déposait ça sur une bonne sauce tomate de chez Leader Price. Et vraiment, et c'était tellement bon.
Vous avez été bien nourri quand vous étiez petit.
Mais hyper bien,
hein.
J'ai jamais mangé à la cantine. Non,
c'est
vraiment.
Génial. On l'invitera un jour,
le
votre maman.
Maison,
hein.
Et tout.
Abdel,
elle est là derrière la porte, on peut l'entendre.
Je me tourne en plus pour vérifier. Abdel, est-ce qu'il existe plusieurs façons? Bien sûr, on a noté celle de votre maman, hein, qui a l'air délicieuse, mais est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire des boulettes, hein? Julie, elle a un stylo à la main, là, elle attend vos conseils.
Alors, on sait que c'est hyper compliqué d'avoir des boulettes hyper fondantes, c'est ça le petit truc de la boulette. On a tendance à laisser cuire longtemps dans un coulis tomate, elle mijote assez longtemps, et du coup, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient toute sèche, voilà. Et
quand
c'est
ça
dur,
cuit trop, après,
quand
la viande n'est pas bonne dedans. Ouais.
Il faut vraiment les griller rapidement.
Mais moi, j'ai toujours peur qu'elles ne soient pas assez cuites non plus. Donc, c'est compliqué quand même à faire.
Alors, j'ai l'astuce pour vous.
La boulette parfaite.
Pour réaliser la boulette parfaite qui tienne et qui reste fondante en bouche, j'ai ma petite astuce, ingrédient secret. C'est la mie de pain.
Ah mais ça on savait.
Ah oui, les grands-mères.
On a la mie de pain, on a le riz, on a de la semoule. Si jamais vous faites beaucoup de couscous, il reste de la semoule ou du boulgour. On peut le mélanger aussi avec cette viande hachée. Alors le pain qui soit sèche ou juste fondant comme ça. Alors ce qui est bien en plus c'est écologique puisque on récupère ce pain tout sec. On va mélanger à cette farce.
Mais on le mouille le pain.
Adèle, fait tourner un peu la boulette.
Il y a du bœuf là.
Adèle, moi comme le docteur Beauty,
j'ai entendu dire qu'il fallait le tremper, le pain, par exemple, dans du lait, non?
On peut le faire tremper dans du lait, évidemment.
Alors, moi, j'ai de la boulette de poulet, c'est ça, c'est possible?
On le mélange.
Il y en a des oranges, il y en a des
poulet,
blanches.
Il y a bœuf. Le blanc, c'est le cabillaud à la vapeur, justement, ce que je vous ai dit.
Ah, génial, j'ai pris le plus léger, moi.
Et là, c'est patate douce. Là, c'est patate douce, le végétarien.
Voilà. Donc, vous voyez, il n'en prend jamais.
Il y a de la sauce.
On peut rester hyper léger. Alors, ce pain, on peut aussi le mixer, en faire une chapelure et le manger avec cette farce. Là, on mange des petites boulettes de chez Boulette. Alors, eux, ils sont rue Saint-Denis. Le chef, il s'appelle Kevin Austry. Il a été formé au Ritz. Bon. Il a décidé de s'occuper de cette carte des restaurants Boulette. Donc, la spécialité, c'est des boulettes. On mélange vraiment de tout. Des kefta, des polpettes, des fricadelles, des albandigas aussi. C'est des petites boulettes espagnoles. Et c'est tellement bon.
Est-ce qu'on peut revenir sur la cuisson? Excusez-moi, je bouge plein. Sur la cuisson de la boulette. Parce que comment on fait? On la saisit, puisqu'il ne faut pas la faire cuire trop longtemps. C'est
alors,
quoi le secret?
Moi, le petit secret, vraiment, prenez une petite poêle, un tout petit peu d'huile d'olive ou du beurre. Alors, j'ai entendu dire que vous mélangez le beurre et l'huile d'olive.
C'est une bonne idée, écoutez, c'est les autres jours, quand vous n'êtes pas là. Hein.
Non, je trouve que c'était
super. Moi, c'est juste parce que j'arrive pas à choisir. Hein. Si je mets les deux, parce que j'aime les deux, je mets du beurre et de l'huile.
Et comme vous disiez, Marouane, effectivement, ça évite que le beurre brûle. Oui. On jette ces petites boulettes qu'on a boulées dans cette poêle, on les colore légèrement, et après, on prépare un petit coulis, comme ça, avec de la tomate, du basilic, du thym, un peu de sel, de l'huile d'olive. Et vraiment, rapidement, on laisse mijoter à peine 2-3 minutes dans ce coulis de tomate, et on obtient des boulettes hyper fondantes.
Bon, si j'ai une petite question, on parle de sauce tomate qu'on va faire maison, là, pas de Leader, dit tout à l'heure. On l'a fait nous-mêmes, la sauce tomate. Est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre un sucre dedans ou pas?
On met le sucre pour enlever un peu l'acidité,
faites,
de la
ça,
tomate. Ouais. Je le fais pas parce que je le fais quand c'est la saison des tomates, donc elles sont assez sucrées. J'en achète par caisse parce que le maraîcher va vous vendre des tomates hyper abîmées. Vous les récupérez,
ça se congèle bien en plus.
Ça se congèle hyper
maison,
bien.
Hein,
donc vous les mettez en bocaux, ça reste 6 mois, ça bouge pas.
Vaut mieux le faire quand les tomates c'est la saison.
C'est la saison.
Exactement. Abdel, est-ce que vous avez quelques livres à nous conseiller? Il y a des trucs?
Non, alors malheureusement non, j'ai pas eu de livre.
Vous avez bien expliqué, on a bien noté la mie de pain, on ne la fait pas forcément tremper, on a
mélangé
la cuisson.
Plusieurs blandes hein, aussi, on peut mélanger.
Plusieurs blandes. Alors, si vous voulez apprendre à faire des belles boulettes, on peut acheter le livre Jérusalem d'Ottolenghi et c'est hyper bien.
Ah
franchement,
ouais.
Il explique tout de A à Z.
Alors, le docteur Marco.
Compliqué quand tu le livre, c'est
ça
très compliqué.
Non, mais c'était compliqué il y a 5-6 ans, mais autant tous les épiciers turcs, kurdes, on retrouve facilement les épices.
Les épices. Ouais.
Vous aimez la boulette?
La boulette en
cabillaud. J'adore la boulette, mais je trouve que c'est génial pour faire manger les enfants parce que moi, mes filles, elles mangent que des frites et des. Veulent que manger des frites. Et c'est vrai que la boulette, c'est facile pour les enfants.
Ah bah c'est ludique, c'est hyper amusant. On peut les faire bouler les boulettes et les manger.
Notre spécialiste avant a dit qu'il ne fallait pas faire le camouflage avec les enfants.
Mais là, on peut même les faire avec eux, les boulettes.
On les fait avec eux, on choisit la farce qu'on veut, on les boule, on peut faire des keftas, donc on les écrase légèrement avec sa main. Et c'est marrant parce qu'on peut dessiner comme ça un visage sur l'assiette avec deux petits yeux, avec les
ludique.
Boulettes. Le ketchup, le sourire, un ketchup maison évidemment.
On sent le papa quand même, on sent qu'il y a d'habitude le cuistot.
Je m'éclate avec mes enfants.
Bon, mais merci Abdel pour tous ces conseils, ces astuces pour réaliser nos propres boulettes délicieuses et toutes simples. C'est ce qu'on veut ici, vous faciliter la vie, y compris en cuisine. À présent, on va basculer dans le monde de l'esthétique. Quoique, en fait, on y était déjà parce qu'une boulette, c'est trop mignon, une boulette.
Elles sont belles, ces boulettes.
Mais là, avec le docteur Auren Marco, c'est notre ventre qui va se refaire une beauté. Et puis encore du beau au programme. Avec notre coach Jean-Marc Delorme et ses conseils sportifs pour des fesses bien musclées, bien galbées. On est dans la rondeur ce midi sur Europe 1.
Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances continue avec nos trois chroniqueurs, trois hommes en plus ce midi pour prendre soin de nous. On a été bien gâtés niveau plaisir gustatif déjà avec le chef Abdel Alaoui qui est toujours avec nous d'ailleurs. Et à présent, on
les
va.
Les boulettes aussi, il en reste, hein. Allez-y,
plus Julia. Plus beaucoup les boulettes. Et à présent, on va se tourner vers notre docteur préféré, docteur Auren Marco. On vous écoute parce que vous allez nous parler du ventre plat. Comment faire pour récupérer son ventre après une grossesse, par exemple?
Plutôt, on va plutôt se focaliser sur les mamans.
Pas sur l'excès de boulettes.
D'accord. C'est vrai qu'une maman qui accouche, elle a évidemment pris pendant 9 mois un peu de gras. La peau s'est distendue, les muscles se sont distendus.
Et c'est bien et c'est normal, on ne fait pas de régime quand on est enceinte, on est d'accord.
Justement, il faut laisser le temps au corps d'une femme, au corps d'une jeune maman de se remettre. Et puis, on sait qu'il y a différents facteurs sur lesquels on peut ne pas jouer. De toute façon, il y a des facteurs comme ça intrinsèques. Si c'est une première grossesse, le ventre pourra se remettre un petit peu plus facilement. Si elle était sportive de base, avec une sangle abdominale.
À la deuxième, Julia, ça va beaucoup moins vite, je vous le dis.
C'est vrai, je la connaîtrai.
C'est pour ça que Julia n'a fait qu'un, je crois.
Ouais, c'est ça.
La prise de poids pendant la grossesse, si elle allait ou pas, et également si elle a eu son retour de couche. Une fois qu'on a tous ces éléments qui sont revenus, il y a aussi, c'est pas très facile pour une jeune maman de reprendre le sport ou un régime quand le bébé dort pas, qu'il faut faire les nuits, qu'elle doit aussi souvent conjuguer le rôle de mère de famille la nuit et puis reprendre le boulot. Donc il faut se donner du temps, il faut pas se presser. Bon. Et si ça prend 6-8 mois, ça prend 6-8 mois.
Alors, même un an, pourquoi pas, on culpabilise.
Nos grand-mères, elles disaient qu'il fallait autant de temps pour perdre du poids que la grossesse, donc 9 mois.
Bon, quand tous les facteurs, on va dire, sont ouverts, là, on a repris le boulot, on va mieux, le périnée est bien en place, le bébé dort. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors déjà, il faut savoir qu'on a soit un excès de graisse, donc quand on a un excès de gras, il faut faire un régime soit équilibré,
rééquilibrer son alimentation,
soit si on veut vraiment perdre, il faut faire de l'hypocalorique, donc ça, vous avez des consultes nutritionnistes pour cela. On a également un taux d'eau, de surcharge hydrique dans le corps qui est important. Donc c'est vrai que c'est très sympa si on peut se permettre de se faire drainer chez le kiné ou dans d'autres praticiennes avec des drainages lymphatiques qui permettent vraiment de sécher au maximum le corps.
Sinon, vous passez les boulettes sur les cuisses, ça draine peut-être le palper.
Elles sont mal bien les cuire avant.
Mais dites-moi, c'est vrai, on est gorgé d'eau après un accouchement?
On est gorgé d'eau et effectivement, il y a nette amélioration quand on vient d'accoucher. Si vous faites drainer très rapidement après, vous pouvez perdre très rapidement.
Ah, c'est un bénéfice. D'accord, et on perd de l'eau et on perd de la graisse aussi.
Et on perd un peu de graisse. La graisse, c'est vraiment le régime hypocalorique, reprendre un petit peu l'activité physique, le cardio. Mais après, ce qui se passe bien souvent, c'est que malgré tout cela,
ressemble encore à un ventre de femme enceinte pendant un petit moment. À 4 mois, 5 mois de grossesse.
Voilà, petit ventre de femme enceinte. Et souvent, le motif de consultation principale, c'est « je ne comprends pas, j'ai accouché il y a 2 ans, et puis on me laisse la place dans le métro, on me laisse la place dans le bus. » C'est un peu un enfer, on ne sait pas si je suis enceinte ou pas. Alors qu'est-ce que c'est ça? Des fois, souvent, les femmes pensent, elles viennent me voir pour une liposuction, etc. Je leur explique que non, ce sont les muscles grand droit de l'abdomen qui se sont écartés pendant la grossesse et qui ont eu du mal à revenir.
C'est ce qu'on appelle le diastasis.
Exactement. Alors, pour traiter ce diastasis ou au moins commencer à le traiter, il y a nos profs de sport, nos kinés,
nous sommes là,
nos
coachs,
et avec une technique notamment, je crois que tu connais bien, les hypopressifs, les abdominaux hypopressifs. Ce serait bien qu'un jour on en parle.
Mais c'est quoi
Jean-Marc, hypopressif, abdos hypopressif?
C'est tout ce qui concerne le périnée, pour tout le maintien.
Un type d'exercice, par exemple.
C'est des exercices où, je crois, on inspire fortement et on contracte fort.
C'est ça, comme le pilate. Généralement, on fait, oui, exactement. Donc c'est le pilate et puis parfois on utilise un des mouvements, c'est le pont, par exemple, vous savez, lorsqu'on monte les fessiers vers le haut.
Ça, c'est de l'abdos hypopressif.
Exactement.
D'accord.
Parce que les femmes, elles veulent avoir non pas des abdos épais comme les hommes avec des tablettes de chocolat, mais le ventre plat. Donc, c'est vraiment important de resangler la sangle interne.
Mais quand ça marche pas, malgré le pont, l'hypopressif,
tout ça, les muscles sont écartés. Donc, c'est là où on peut aller consulter un chirurgien, mais on vient le consulter uniquement quand on a fini ses grossesses. D'accord. Qu'on est sûr de ne plus vouloir
d'autres enfants. On ne fait pas d'abdominoplastie si on a encore des projets.
On ne fait pas d'abdominoplastie si on a encore des projets. L'abdominoplastie, c'est une opération qui consiste donc à faire... Il y a une cicatrice en bas cachée dans la culotte, on décolle toute la peau.
C'est lourd comme intervention, il faut le dire.
Donc ça ne se prend pas du tout à la légère et on referme tous les muscles abdominaux. Vous avez 2-3 semaines pour vous en remettre, voire plus. Il y a des risques de phlébite, etc.
C'est une des opérations de chirurgie esthétique pour lesquelles il y a le plus de complications,
Donc
il faut le savoir avant de se lancer.
La chirurgie, certainement la chirurgie en esthétique qui est la plus lourde et la plus risquée. Donc si on le fait, il faut déjà avoir bien... C'est pour ça que je vous ai parlé de toutes les choses auparavant, bien avoir perdu du poids, essayer d'avoir fait le maximum pour arriver à un poids le plus bas possible pour éviter ce risque de surcomplications qui sont majorées avec la prise de poids.
Et ça fait mal?
Très mal.
Ça fait très mal.
On est honnête, hein, dans Bienfait
pour
vous.
C'est une intervention qui fait très mal, mais maintenant, les progrès de l'anesthésie,
vous savez gérer la douleur.
On gère très bien la douleur, on aide beaucoup les patientes, il y a des pansements réguliers pour contrôler tout cela.
C'est pas de la tarte.
Mais c'est pas une petite intervention.
Et vous pensez, docteur, dans les magazines People, tout ça, on les voit, toutes les stars américaines, le ventre plat, c'est presque un concours sur les réseaux sociaux, c'est horrible.
Elles viennent d'accoucher
et au bout de 3 semaines, elles ont un ventre plat. Elles se font opérer, celles-là ou...
On peut se poser la question et je crois avoir entendu effectivement qu'il y a eu déjà des abdominoplasties pendant des césariennes.
L'enchaîne comme ça.
Et après, je ne sais pas si c'est légende ou en tout cas en France, certainement pas.
En tout cas, c'est pas à recommander, on est d'accord.
C'est extrêmement dangereux. Il faut laisser son corps reprendre le dessus.
Oui, on en profite pour dire on refait pas ses seins pendant l'accouchement également. On est raisonnable.
Voilà.
Merci beaucoup, docteur Oren Marco, pour cet éclairage précis, utile et clair. Alors, le ventre, évidemment, vous pouvez nous aider pour ça, Marco, mais aujourd'hui, vous avez préféré nous parler de quelque chose qui se trouve plus
Jean-Marc
bas.
Delorme, pas Marco. Jean-Marc
Delorme. Oui, parce que moi, dans la vie, j'appelle Marco, mais c'est Jean-Marc Delorme, effectivement. Jean-Marc Delorme, on va parler des fessiers aujourd'hui, comment les avoir galbés et rebondis.
Boule qui chamboule, vous nous avez promis.
Boule qui chamboule, en boule boom short. Exactement. Alors, les fessiers, c'est évidemment un des muscles, enfin, c'est trois muscles, en fait, mais très important dans notre anatomie. Hein. Alors, Kim Kardashian l'a évidemment très bien compris.
Elle a mis le paquet. Hein.
Voire trop.
Ça fait beaucoup.
D'accord. Alors, nous, on va éviter, comme ça, de devenir, dans quelques années, plutôt des culbutos, hein, mais à avoir quelque chose d'assez...
tonique.
Tonique et puis bien dimensionné, bien proportionné. Alors, on va donner plusieurs conseils pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà les fessiers, c'est trois muscles. Alors maintenant, on n'appelle plus les fessiers, on appelle ça les muscles glutéos.
Ah, bon,
comme ça, c'est
une
nouvelle nomenclature.
Bon, enfin, c'est voilà.
Alors, il y a le petit fessier, le moyen fessier et...
Le gros fessier.
Mais moi, j'ai pas le gros. Moi, je crois que j'ai que celui-là.
Le gros fessier.
Moi, c'est le gros. Chez moi, c'est le gros, mais normalement, c'est le grand.
Donc.
Hormis du côté esthétique, est-ce que les fessiers sont des muscles qui sont importants en sport, par exemple?
Alors, mais c'est un des muscles les plus importants. Ah. Des fois, c'est un peu difficile à dire quand on a surtout un public masculin de dire on va faire les fessiers.
Ils sont pas friands de ça.
Les mecs, ils nous regardent genre.
Non, ah non, c'est pas vrai. Moi, je suis très à l'aise avec ça.
C'est vrai.
Et
c'est beau, des belles fesses.
C'est un tort parce que c'est évidemment un des muscles les plus importants quand on voit Usain Bolt. Qui part.
Il a des bonnes fesses bien musclées. Hein.
C'est qu'il a des fesses très musclées et tout vient des fesses. Et j'en veux pour prof qu'on ne pourrait même pas tenir debout si on n'avait pas les fessiers. Voilà, c'est
pour ça qu'on est si stable, Julia et moi. Hein.
Nous, c'est bon.
Même
partant de grand vent, on ne bouge pas avec Mélanie.
Non, évidemment, c'est un muscle très sollicité. Donc, lorsqu'on veut les fesses bombées, on va travailler quoi? On va travailler le grand fessier. Voilà. Mmh. Alors, avec des exercices très simples, tout le monde connaît le squat.
Ouais. Mmh. Julia, peut-être.
Hein, ah, le squat.
Ah, le squat.
Donc, jambes écartées, debout. Voilà.
Jambes, vous pouvez l'avoir sur un repas. Voilà.
On fait comme si on s'asseyait sur les toilettes ou sur une chaise.
Exactement.
Enfin,
bien le poids sur les talons. Voilà. On regarde devant et on a le dos et fait très bien. Toujours pareil, je vous l'avais déjà dit une fois, on descend doucement, on remonte vite pour ne pas attraper les grosses cuisses. D'accord, mais ça va être très très bien pour avoir les fesses bombées. Et puis, il y a un exercice qui marche aussi super bien, c'est la fente surélevée.
C'est quoi? Alors, ça, décrivez-nous.
Vous mettez en fente et le pied
en avant,
qui
par
est,
exemple, hein,
voilà, ça, voilà. Et le pied qui est derrière, vous le posez sur un petit promontoire, une chaise, un tabouret, ce que vous voulez.
Évident,
d'accord,
donc
vous allez avoir le pied surélevé et là, vous allez avoir un travail des fessiers. Je vous raconte
et là,
pas.
Fait quoi, on monte,
voilà,
on descend.
Julia fait ça très très bien.
Merci.
Et là, c'est vraiment...
on alterne d'une jambe et l'autre pour muscler les deux fesses,
jambe et l'autre,
c'est mieux.
On peut faire des répétitions entre 12 et 20. Et puis, à la fin des 12 et 20 répétitions, on attend quelques secondes pendant 10 secondes en isométrie en bas. Et là, vous allez voir.
En isométrie, ça veut dire quoi?
En isométrie, ça veut dire statique sans bouger.
C'est
là que ça tient.
Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Et tout de suite, eh bien, on va rester dans le joli, puisque c'est votre tour, Maud Ravier. On adore vos conseils beauté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bouche, je crois bien.
Oui, tout à fait. La bouche, comment sublimer une bouche à tout âge et surtout, ce qui est génial, d'une façon permanente.
Ah ben, j'adore. Mais alors, est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, une bouche plus pulpeuse, plus colorée? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour avoir une belle bouche? C'est quoi une belle bouche déjà?
Alors, une belle bouche, déjà, il faut que ça aille morphologiquement parlant avec le visage. Mais une belle bouche, on a toujours envie de pulpeux. Hein, toujours. Ouais. C'est toujours ce qui revient.
Mais pas trop, hein, attention, on a
non,
vu...
Ah non, on ne va pas dans l'excès, justement. Ah. Donc le maquillage permanent, comme son nom l'indique, c'est permanent. Donc il faut absolument que ça soit extrêmement naturel. Mmh. On refuse les contours marrons, on refuse les choses trop vulgaires.
Les contours de bouche. Là,
voilà, on doit sublimer. Donc il y a différentes techniques. Y a
parce
des
que ça
techniques...
existe depuis longtemps, on est d'accord. Il hein. y a ça des vieilles dames qui ont des choses aujourd'hui qui sont restées, qui ne sont pas terribles.
Ça
hein, quand
existe
même.
Depuis plus de 20 ans. Et c'est surtout qu'avant, on utilisait des encres de tatoueurs. Et donc ça virait avec le temps dans les gris, les marrons, les les bordeaux et on se retrouve avec des couleurs vraiment
même
horribles.
Même du orange, hein, parfois, non ?
Alors oui, les oranges encore, sur une lèvre, ça passe. Mais j'ai vu vraiment des contours de lèvres bleues, donc c'était compliqué. Donc toutes ces années ont fait que moi, j'ai prôné le naturel. J'ai choisi des pigments extrêmement doux, pastels, qui subliment. Voilà, c'est vraiment le mot que j'aime.
Vous avez sublimer. Un contour de bouche, là ?
Alors oui, c'est pas un contour de bouche, c'est un magic lip. C'est-à-dire qu'on délimite la lèvre pour que vraiment on puisse redonner du volume, de l'éclat. On donne une couleur subtile, mais en aucun cas je vais être trop vulgaire pour aller faire du sport. Pour aller...
Je la regarde de profil.
C'est
nature, voir.
Mais
c'est génial.
Ça
va être très naturel. On dirait que vous n'êtes pas maquillée en fait. Là,
voilà.
Mais c'est une
ça
bouche
fait
un peu rosée. Voilà, c'est ça.
Effet
un peu
baume à lèvres. Baume.
Mais si jamais on aime, je sais pas, le... ben justement, ça vous permet vous de mettre éventuellement un rouge à lèvres rouge le jour où vous avez
Exactement.
Envie de mettre quelque
c'est
chose
que
de plus voyant. Quoi.
Voilà, c'est ce que j'explique vraiment à mes clientes, c'est que le maquillage permanent doit sublimer, mettre en valeur vos traits, votre bouche, corriger une dissymétrie s'il y a besoin de corriger une dissymétrie, mais en aucun cas vous devez être peinturluré dès le matin. Donc, le matin, vous avez envie de mettre du rouge, du corail, et ben votre maquillage prendra le dessus sur le maquillage permanent.
Alors, question bête, mais à mon avis qui va intéresser beaucoup de monde, ça fait mal, non ? Ça doit faire horriblement mal de se faire tatouer les lèvres.
Alors, ça pique un peu, évidemment, parce que c'est un peu comme du tatouage, mais nous avons la particularité chez nous, c'est d'utiliser des aiguilles très fines, style un peu aiguille d'acupuncture. Donc franchement, au bout d'un ou deux passages, la lèvre s'habitue et c'est plus que supportable.
Alors, vous avez dit la mode, et souvent l'envie en tout cas, c'est d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Est-ce qu'on peut donc améliorer une lèvre très fine ? Presque, il y a des gens, c'est quasiment inexistant
tout
la lèvre.
Fait.
Quand on a, ou alors quand on a deux lèvres très asymétriques. Qu'est-ce
tout
que vous
fait.
Pouvez faire là ? Le candylip,
alors,
je crois,
voilà, c'est
quoi ?
La technique candylip, ouais. C'est-à-dire qu'on va venir délimiter la lèvre d'une façon extrêmement nette et précise et on va jouer avec un dégradé de trois couleurs pour donner du volume. Un peu comme un artiste qui va vouloir donner du volume sur sa peinture, va faire du foncé puis du plus clair pour jouer avec les volumes. Donc ça, c'est la candylip. Et quand on a déjà une lèvre sublime et qu'on ne veut, on veut pas délimiter trop, c'est plutôt la magic lip, c'est-à-dire que c'est un effet baume à lèvres, nude ou rosé, c'est au choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans nos espaces beauté, on a des couleurs, on a à peu près 50 couleurs. Et donc on est sur du sur-mesure.
Ah oui, il y a du nude, il y a même plusieurs variations de nude, on va dire. C'est ce qui veut dire naturel. Quoi,
oui,
c'est ça,
on d'accord. s'adapte à la carnation de votre peau, surtout. Mmh. C'est très important.
Et on peut aussi profiter de ce maquillage permanent, quelque soit la couleur de nos lèvres, même si j'ai la peau mate ou la peau même noire, on va dire. Vous avez des teintes pour tout le monde et ça peut la rendre, parce que vous avez dit, on peut l'avoir la lèvre